Littérature sans frontières.
Catherine Fruchon-Toussaint, Fanny Renard.
Bonjour à toutes et à tous. En ce 12 janvier qui marque le 43e anniversaire de la mort d'Agatha Christie, voici une émission qui montre à quel point la romancière britannique reste non seulement l'auteur la plus lue de tous les temps, mais continue d'inspirer sans relâche les cinéastes et les écrivains avec une œuvre populaire dont les mystères connaissent toujours un succès planétaire. Une réussite dont Agatha Christie a gardé le secret jusqu'au bout.
Yes, I do find one's friends are curious about the way one works. What is your method, they want to know. Well, the disappointing truth is that I haven't much method. I type my own drafts on an ancient but faithful machine I've owned for years. No, I think the real work is done in thinking out the development of your story and worrying about it until it comes right. That may take quite a while. Then when you've got all your materials together, as it were, all that remains is to try to find time to write the thing.
Voilà quelques mots rares d'Agatha Christie qui donnait très peu d'interviews et que l'on entend ici dans une archive s'étonner qu'on lui pose des questions sur l'écriture, dire qu'elle n'a aucune méthode, qu'elle tape elle-même ses brouillons à la machine, que le vrai travail consiste à développer une histoire, à y réfléchir longuement et une fois qu'on a tous les éléments, que le vrai défi est de trouver le temps pour bien l'écrire. Temps dont elle a disposé pour rédiger donc 67 romans, 190 nouvelles, 18 pièces de théâtre, une autobiographie et créer deux des personnages les plus célèbres de la littérature, Hercule Poirot et Miss Marple. Et aujourd'hui, pour évoquer la mémoire de la Duchesse du Crime, deux passionnés à mes côtés, Anne Martinetti pour commencer. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages consacrés à Agatha Christie, à commencer par un livre de recettes, mais aussi une encyclopédie, un roman graphique et récemment, donc, ce nouvel ouvrage illustré, intitulé « À la poursuite d'Agatha Christie » aux éditions Hugo Images. À vos côtés, Pierre Bayard, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur de littérature française, psychanalyste et éminent essayiste, particulièrement spécialisé dans la critique policière. Et ici, après un volume intitulé « Qui a tué Roger Ackroyd », vous vous intéressez à nouveau à l'un des titres emblématiques d'Agatha Christie dans cet ouvrage intitulé « La vérité sur dix petits nègres » aux éditions de Minuit. Donc c'est une œuvre qui connaît un écho international à l'image de la vie d'Agatha Christie, comme vous le rappelez Anne Martinetti, parce que elle était une grande voyageuse et très tôt, même à une époque où c'était peu courant pour les femmes, elle est sortie de son Angleterre natale pour aller au final sur les cinq continents, n'est-ce pas ?
Tout à fait. Donc, elle est allée tout d'abord avec ses parents lorsqu'elle était enfant. Elle a voyagé aux États-Unis, elle a voyagé en France. Elle est allée ensuite avec son premier mari faire le tour du monde au sens strict, puisque partie de Southampton, elle est partie donc en Afrique du Sud, Nouvelle-Zélande, Tasmanie, revenue par le Canada, New York. Et puis ensuite, avec son deuxième mari, Max Palowan, elle est partie sur les chantiers de fouilles dans tout le Moyen-Orient, notamment en Syrie et en Irak.
Est-ce qu'on peut dire d'ailleurs que cette modernité, cet avant-gardisme presque, en tout cas cette liberté dont elle faisait preuve et qui pouvait d'ailleurs être assez transgressive pour l'époque, est-ce que c'est aussi ce que vous aimez chez elle, à savoir la femme presque autant que la romancière ?
Alors, j'ai commencé par découvrir la romancière, mais dans ses romans, ce que j'ai découvert, moi, ce sont des personnages de femmes, effectivement, alors à un âge où j'étais adolescente et donc où j'ai trouvé des personnages de femmes très modernes, avec une liberté de ton. Et ensuite, j'ai découvert sa vie et sa vie un peu rêvée quand même, puisque elle a voyagé toute seule, elle gagnait sa vie, elle conduisait, enfin, c'était une femme éminemment moderne, oui.
Et vous, Pierre Bayard, c'est donc la deuxième fois que, dans un livre, vous vous intéressez à l'œuvre d'Agatha Christie. Avant d'en arriver précisément à ce nouveau, qu'est-ce que vous aimez, vous, dans son écriture, voire dans sa vie ?
Je ne sais pas pourquoi j'en ai fait un deuxième. Je m'étais juré d'en faire qu'un. Et je crois que c'est quelqu'un dont j'aime tellement l'univers que le deuxième livre s'est imposé à moi. Également, il y avait le problème des invraisemblances que j'avais trouvées dans Des Petits Nègres. Mais surtout, un univers qui vient de mon enfance, de mon adolescence, qui continue à m'habiter. Ce sont des personnages qui ont une véritable vie autonome. Hercule Poirot existe comme Sherlock Holmes. Peu de romancières ou de romanciers parviennent à cela. Et ce qui m'a plu aussi, c'est l'idée que, contrairement aux trois autres livres que j'avais déjà fait, où je remets en question les conclusions de l'écrivain lui-même, là, c'est l'un des personnages, ou l'une des personnages du livre, qui prend la parole. Et donc, je m'enfonce dans ce couvre Agatha Christie, des univers qui existent, des personnages qui existent, et je donne la parole au véritable assassin de Des Petits Nègres, qui raconte comment elle a fait.
Effectivement. Donc Agatha Christie voyage beaucoup et de surcroît, elle inscrit ses romans dans les lieux qu'elle connaît ou qu'elle a visités. C'est ce que vous nous montrez, Anne Martinetti, dans ce très bel ouvrage qui, par cercle excentrique, élargit sa vie et son œuvre. Donc on part du Royaume-Uni, bien entendu, où elle est née, d'une mère anglaise et d'un père américain, rappelons-le. On la voit évidemment dans le milieu de Londres, le milieu théâtral, et puis vous élargissez au monde entier en passant par l'Europe et le Moyen-Orient, sans oublier l'Afrique, dont nous reparlerons tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples de ces livres qui, en effet, prennent pour cadre quelques pays en particulier?
Alors, très rapidement, en réalité, elle s'est inspirée de ses voyages, puisque dès L'homme au complet marron, en fait, elle parle d'une jeune femme qui part en Afrique du Sud sur les traces d'un mystérieux assassin. Donc, elle s'est tout de suite servie du matériau vivant pour ensuite en faire des livres. Bon, il y en a certains qui sont extrêmement célèbres. Le crime de l'Orient Express, évidemment. C'est elle qui va partir à Bagdad tout de suite après son divorce. Et puis, Rendez-vous à Bagdad, encore une fois, où elle raconte les héroïne se promène dans les souks, se promène au milieu de cette bonne société anglaise, un peu condescendante vis-à-vis des populations locales, etc. Donc il y a tout un vécu qui, en fait, moi, m'a donné envie, après, de découvrir les lieux sur ces traces. Donc, à part, évidemment, les endroits où je n'ai pas pu aller pour cause de guerre ou de problèmes liés à l'histoire du pays, oui, j'ai quasiment en fait voyagé.
Vous pensez à la Syrie, j'imagine.
Je suis pas allée en Syrie, mais en revanche, sur quasiment tous les autres endroits, et même jusqu'à Hawaï, je suis allée surfer à Hawaï. C'était une espèce de rêve, comme ça. Et donc, j'ai pu utiliser pour ce livre à la fois toute la teneur des romans que je relis pour chaque livre, et donc vraiment dans le détail, donc cette fois-ci d'un point de vue géographique. Et puis, mes voyages, puisque maintenant, je voyage toujours en compagnie d'Agatha Christie. C'est ce que j'ai expliqué à son arrière-petit-fils. En fait, dans ma vie, il y a trois personnes. Il y a mon mari, Agatha Christie et moi, en fait. Donc, ça l'a beaucoup fait rire. Mais c'est vrai que, tout autant que Pierre Bayard, je suis une passionnée par ce qu'elle écrit. Et donc, il ne pensait peut-être pas en écrire deux. Et j'en pensais peut-être pas en écrire autant. Mais j'éprouve un réel intérêt, une réelle redécouverte à chaque lecture, en fait.
Et donc, Burg Island, dans le sud du Devon, qui a servi de référence pour l'île du roman Les Dix Petits Nègres, publié en 1939, qui est sans doute l'un des titres les plus connus et les plus vendus, 100 millions d'exemplaires à ce jour environ, dans des centaines de traductions. Livre qui est au cœur de votre essai, Pierre Bayard. Et pour se mettre l'eau à la bouche, voici un bref extrait de la très récente adaptation du roman à la télévision britannique.
Vera Clayford, Thomas and Ethel Rogers, Anthony Marston, Lawrence Wargrave, John MacArthur, Emily Brent, Edward Armstrong, Philip Lombard, William Law.
Donc nous voici dans l'ambiance de cette histoire, Les Dix Petits Nègres. On vient d'entendre les 10 noms des victimes. Mais voulez-vous, pour commencer, Pierre Bayard, peut-être nous rappeler l'intrigue, sans trop en dévoiler, peut-être?
Oui, vous disiez 100 millions de lecteurs, mais 100 millions aussi de personnes qui ont été aveuglées sur la vérité. Rappelons-le, c'est dramatique.
On y arrive.
Et donc, 10 personnes sont conviées sur une île au sud du Devon, chacune étant invitée sous un prétexte différent. Par exemple, une, Vera Clayton, est invitée pour un poste poste de secrétaire. Un général, général MacArthur, est invité parce qu'il pense retrouver des copains de régiment. Ces 10 personnes se retrouvent sur l'île, piégées par le ou la mystérieuse propriétaire, et chacune des 10 est exécutée. Et à la fin, on retrouve donc 10 cadavres, et la police est incapable de trouver une explication, car les dernières personnes qui auraient pu tuer les autres n'ont pas pu le faire quand on examine les indices. Vera Clayton est la dernière personne manifestement à être morte, pendue, mais quelqu'un a remis la chaise sur laquelle elle est pendue contre le mur. Donc la police se trouve face à une série de 10 meurtres complètement inexplicables. Et à la fin, vous avez une lettre à l'intérieur du roman dans laquelle l'assassin indique comment il ou elle a fait. Donc vous voyez, je ne spoil pas la solution d'Agatha Christie.
Vous êtes parfait.
Je pourrais, puisque c'est pas la bonne. Mais je ne vais quand même pas le faire, puisque tout l'enjeu du livre, de mon livre, consiste à montrer comment il y a une autre solution aussi que celle proposée par Agatha Christie, avec tout le respect que j'ai pour elle, et que cette solution permet de résoudre des invraisemblances majeures qui restent dans celle qu'elle nous propose.
Nous y arrivons. Juste un mot pour ajouter que Dix Petits Nègres, c'est un titre qui vient aussi d'une comptine, qui a un rôle important pendant tout le récit, puisque le texte est affiché dans la chambre de chacun des protagonistes et selon la comptine, à chaque fois, l'un d'entre eux meurt dans les circonstances racontées. Et donc, en effet, de même que vous aviez démontré qu'Agatha Christie avait peut-être donné le mauvais nom de l'assassin dans le meurtre de Roger Ackroyd, là, Pierre Bayard, vous nous faites douter, au terme d'ailleurs d'une argumentation passionnante et très documentée du véritable coupable de la série de ces 10 meurtres, des 10 petits nègres, et vous donnez la parole donc à un mystérieux narrateur ou une mystérieuse narratrice qui donne sa version, qui va dire sa vérité. À quel moment est née en vous donc l'idée de remettre en question la théorie de l'auteur elle-même ?
Alors, à propos de ce livre-ci, hein, l'idée est venue lorsque j'ai noté qu'il y avait une invraisemblance massive. Ces 10 personnes, hein, bloquées sur l'île, ne sont pas bloquées par le fait qu'elles sont sur une île, elles sont bloquées par le fait qu'il y a une tempête terrible qui se déclenche. Et c'est cette tempête qui empêche les occupants de l'île, et en particulier les plus jeunes qui sont en pleine forme physique, de rejoindre le rivage à la nage. Mais comment l'assassin pouvait-il prévoir qu'il y aurait une tempête ? Et donc cette invraisemblance massive fait qu'il faut reprendre le dossier de A jusqu'à Z, ce que j'ai fait. Si on prend votre question d'une manière plus générale, remettre en question les solutions des écrivains ou des écrivaines, je dirais c'est jouer avec un univers que ces écrivains eux-mêmes ont proposé. Ce n'est pas du tout les mépriser, c'est au contraire encenser leur œuvre. D'ailleurs, Agatha Christie elle-même quelquefois le fait, comme Anne le sait très bien, à la fin du Crime de l'Orient Express, Hercule Poirot propose deux solutions qui l'une et l'autre tiennent parfaitement et finalement il en choisit une. C'est ce que j'ai fait très modestement à propos de Dix Petits Nègres.
De même que vous laissez entendre qu'Agatha Christie connaissait peut-être cette deuxième solution inconsciemment, qu'elle-même, elle a donné des indices dans le texte. Après, c'est une question d'interprétation.
Oui, c'est lié à la structure même du roman policier, d'énigmes, hein, les whodunit. L'auteur est nécessairement contraint à lancer des tas de pistes vers différents coupables possibles pour tromper le lecteur. De ce fait, à la fin, quand il se rabat sur une seule solution, d'autres restent ouvertes, parce que la solution qu'il choisit à la fin ne peut pas les annuler toutes. Donc il y a quelque chose dans le roman policier en soi qui fait qu'on peut aussi proposer d'autres solutions sans modifier le texte, parce que dans cette démarche de la critique policière, je ne modifie pas une seule virgule du texte d'Agatha Christie.
On est bien d'accord. Néanmoins, vous recourez à une autre traduction en disant que peut-être les premières traductions françaises avaient laissé échapper des indices ou avaient orienté la lecture des lecteurs dans un mauvais sens.
Oui, alors il faut reprendre, quand on fait de la critique policière, qui est une critique scientifique, il faut vraiment reprendre les textes originaux et aller voir dans les textes écrits par l'écrivain lui-même ce qui est écrit. Cela dit, il y a une invraisemblance majeure, il y a aussi un indice majeur, dont je ne vous parlerai pas, qui est répété à 3 reprises dans le livre et qui conduit directement vers la solution et vers le véritable assassin. Cet indice était présent dès la première traduction. Il est étonnant qui n'ait pas été relevé par les 100 millions de lecteurs que vous indiquiez tout à l'heure.
Anne Martinetti, Pierre Bayard vient de citer à l'instant Le Crime de l'Orient Express, où effectivement Agatha Christie, par Hercule Poirot, propose deux versions. Est-ce que c'est rare dans son œuvre, ou d'habitude, il me semble qu'elle finit, qu'elle clôture avec un coupable, ou est-ce qu'en effet, il y a d'autres exemples?
Elle a souvent hésité dans la fin de ses ouvrages, soit à suivre le bon goût et la morale, on va dire, ou bien à suivre son penchant naturel, qui était quand même celui d'une femme qui était, on va dire, une libre penseuse au sens strict. Et lorsque Hercule Poirot s'interroge sur le fait de punir ou pas, dans le crime de l'Orient Express, les coupables du crime de cet odieux kidnappeur qui a mérité, non pas d'être assassiné aussi sauvagement, mais en tout cas a mérité d'être puni, eh bien, je pense que c'est elle-même qui s'interroge. Elle le raconte très bien dans son autobiographie, lorsque elle dit qu'en tant qu'écrivain et finalement représentante de la pensée, non pas anglaise, mais en tout cas d'une pensée qui peut être rendue publique, elle a toujours hésité, en fait, à donner son opinion. Parce que justement, elle pensait que son opinion n'était pas forcément recevable par rapport à la société dans laquelle elle vivait, et que c'était finalement la meilleure manière pour elle de témoigner de son époque et de donner ses opinions, c'était d'écrire des romans policiers.
Et c'est ce qu'on voit dans Le Crime de l'Orient Express en particulier.
Oui.
Vous êtes bien à l'écoute de Littérature sans frontières sur RFI avec une émission spéciale consacrée à Agatha Christie, disparue le 12 janvier 1976, il y a 43 ans exactement, et au cœur de deux livres signés par nos invités Anne Martinetti pour À la poursuite d'Agatha Christie aux éditions Hugo Images et Pierre Bayard pour La vérité sur Dix petits nègres aux éditions de Minuit. Un livre qui se présente comme un roman policier, qui est donc une quête du véritable assassin du roman d'Agatha Christie, une variation qui s'appuie sur des détails, qui cherche les failles de la narration, les invraisemblances. En un mot, vous êtes aussi le Hercule Poirot de l'enquête littéraire, Pierre Bayard.
Alors, ce que j'ai essayé dans ce mouvement critique que j'ai créé, qui s'appelle la critique policière, c'est de manier à la fois le caractère joueur, ludique du polar, puisque ces livres sont des polars, dans le La vérité sur Dix petits nègres, le nom de l'assassin, c'est la dernière ligne du livre, et de mêler donc ces polars à une réflexion en sciences humaines, donc de joindre ces deux types de livres qui sont en général séparés, les livres de littérature, de fiction, et les livres de sciences humaines. Et dans chacun de ces ouvrages de critique policière, il y a une réflexion en sciences humaines qui est mêlée au polar. Et dans ce cas précis, la réflexion, c'est sur l'aveuglement, puisque j'essaie d'abord de réfléchir sur la manière dont Agatha Christie dupe le lecteur, qui ne voit pas comment il était possible en effet de tuer 10 personnes sur l'île du Nègre. Et puis je décale d'un cran et je montre comment, en utilisant la même méthode de désaveuglement, on peut trouver une autre solution. Et j'étudie donc un certain nombre de travaux de sciences humaines, en psychanalyse, en cognitivisme, etc., qui ont réfléchi sur cette question de l'aveuglement. Qu'est-ce qui fait que la vérité peut être sous mon nez, devant mes yeux, que je ne la vois pas. Le principe même du whodunit, du roman policier d'énigme.
Mais est-ce que vous diriez que c'est aussi la lecture de romans policiers qui a formé votre esprit et qui a orienté votre cerveau à une certaine appréhension du texte.
Oui, je crois que j'ai été comme beaucoup de grands lecteurs, un grand lecteur de romans policiers, et en particulier d'Agatha Christie, qui est incontournable. J'ai aussi l'esprit assez soupçonneux, voire un brin paranoïaque, et la critique policière est le terrain d'exercice de la paranoïa ou du complotisme littéraire. C'est-à-dire, on ne nous dit pas tout dans les œuvres littéraires, telle est la maxime de base de la critique policière. Et j'ajouterais même, on nous cache des choses.
Alors, Anne Martinetti, si certains peuvent voir un crime de lèse-majesté dans le travail de Pierre Bayard, je pense que vous, qui avez l'esprit plus ouvert, devez au contraire vous en amuser. Qu'est-ce que vous pensez de cette façon de détourner, alors pas détourner le texte d'ailleurs, mais de le retourner pour lui donner peut-être un autre sens et son vrai sens?
Alors en fait, je fais beaucoup plus que de m'en amuser, je trouve ça génial. Je trouve ça génial parce que ça fait entrer les auteurs de littérature policière qu'on regarde parfois du haut d'un certain piédestal de la littérature avec un L. Ça fait entrer les auteurs de romans policiers dans justement le cadre des auteurs observés, étudiés. J'ai fait des études littéraires, des études de lettres supérieures. Lorsque moi je voulais faire des exposés ou faire des synthèses sur des auteurs de romans policiers, mon professeur de lettres supérieures me regardait avec un petit air amusé en me disant pourquoi pas, mais ce n'était pas évidemment les lettres supérieures avec des capitales à tous ces mots-là. Donc je trouve ça vraiment génial parce que ça fait entrer Agatha Christie, qu'on a souvent considéré comme un auteur de littérature populaire avec un petit P, dans le cercle des auteurs, voilà, reconnus, étudiés, des légendes littéraires, au titre de tout à l'heure, on a évoqué Samuel Beckett, au titre d'un prix Nobel de littérature, pourquoi pas? Donc je trouve que à chaque fois qu'on étudie Agatha Christie ou qu'on l'étudie d'un point de vue, on étudie son œuvre d'un point de vue sérieux, d'un point de vue cognitif, d'un point de vue des sciences humaines, ça me fait plaisir.
Et d'ailleurs, Pierre Bayard, si on regarde le corpus des auteurs sur lesquels vous avez travaillé, vous la mettez au même rang finalement que Shakespeare, que Dostoïevski, ou en tout cas que des grands auteurs russes. Vous
tout
la mettez
à fait,
au plus
non, mais je partage tout à fait ce que dit Anne, c'est-à-dire je fais pas de sélection, de hiérarchie. Hein, je crois qu'il faut évaluer la qualité d'une œuvre par rapport au genre littéraire. Et Agatha Christie est une très grande écrivaine à l'intérieur du genre policier, ça va sans dire. Dostoïevski, non, Tolstoïevski, auquel j'ai consacré mon livre précédent en essayant de réhabiliter ce géant de la littérature russe méconnu.
En effet. Alors revenons sur cette Berg Island, qui est donc au sud du Devon, comme on le disait, qui a d'ailleurs, vous le dites l'un et l'autre, a donné lieu à deux romans différents. Alors, l'un et l'autre, vous y êtes allé, vous avez visité, vous vous êtes promené.
Moi, j'ai eu l'envie et le besoin de voir ce lieu dont se serait inspiré Agatha Christie pour écrire Des petits nègres, à la fois pour faire des vérifications, ce qui concernait la question de la distance entre l'île et la côte, mais aussi parce que j'avais envie de voir ce lieu. Et je comprends tout à fait le travail d'Anne, hein, qui illustre très bien ce mystère qui fait que certains lieux dont les écrivains ont parlé deviennent des lieux littéraires. Je sais bien que ce n'est pas l'île du Nègre, Berg Island, et pourtant j'avais l'impression, en y étant, de capter quelque chose de l'œuvre elle-même. Ce qui n'est pas si absurde, parce que quand on va voir les lieux dont se sont inspirés les écrivains, c'est un peu comme si on entrait à l'intérieur de leur esprit, de leur psychisme, et donc d'une certaine façon, on rentre bien dans l'œuvre littéraire, et d'où l'émotion que j'ai ressentie en lisant ce livre sur des lieux que je n'avais jamais vu représentés, comme la maison dont s'est inspirée Agatha Christie pour Leurs Héros, qui est un de mes livres préférés, ou bien la maison dont elle s'est inspirée pour son premier roman, qui se passe à Stiles, etc. Donc j'ai retrouvé des lieux dans lesquels je n'ai pas fait le travail d'Anne, mais qui sont pour moi émouvants de les voir représentés dans un livre.
Est-ce que c'est devenu un lieu touristique, cette île?
Alors, il y a une suite Agatha Christie dans l'hôtel de Berg Island, et donc qui est un hôtel de luxe.
Et donc, après le succès
absolument
du livre.
Tout à fait. Tout à fait. C'était une propriété privée à l'époque d'Agatha Christie, et elle y a été invitée, en fait. Et donc, maintenant, c'est devenu un hôtel. Enfin, l'hôtel qui est sur l'île, et donc, on peut y séjourner dans la suite Agatha Christie.
C'est assez cher. Et
vous y êtes allé, Pierre Bayard?
J'ai vu l'hôtel, mais on ne peut pas s'en approcher. Il y a des grilles, et je n'avais pas les moyens de payer
tarifs.
Une chambre.
Quoi? Vous avez vu juste les tarifs.
Voilà, c'est ça. Et puis, j'ai inspecté l'île, et j'ai fait des repérages pour mon livre. Voilà.
Oui, tel Sherlock Holmes, là, pour
absolument,
le coup.
Absolument, oui.
Est-ce qu'il y a d'autres traces ailleurs des voyages d'Agatha Christie? Alors, je pense par exemple au Perla Hotel, n'est-ce pas, à Istanbul.
Perla Palace.
Perla Palace où elle a séjourné, mais il y a d'autres endroits qui ont dû, suite aux guerres, s'effondrer.
Alors, il y a donc l'Opéra Palace, effectivement, à Istanbul. Il y a un hôtel à Bagdad. Là, je ne sais pas, pour le coup, s'il est encore sur ses murs. Et il y a à Dinar, une plaque, parce que Agatha Christie a appris à nager à Dinar, qui indique que la romancière a appris à nager sur la plage de l'Écluse, donc à Dinar. Et puis, il y a on retrouve en Égypte et à Luxor les deux hôtels où elle séjournait, où effectivement on peut écouter des lectures de Mort sur le Nil, et donc également le Steam Soudan où il y a une suite Agatha Christie. Donc enfin oui, il y a énormément d'endroits en fait par le monde. Le seul que je n'ai pas retrouvé, c'est l'hôtel où elle a séjourné quand elle était à Hawaï, parce que Hawaï en 1923 n'est plus le Honolulu d'aujourd'hui, donc là c'est vrai qu'on ne peut pas trop retrouver les traces. Mais c'était très intéressant en fait, suite à la parution de ce livre, j'ai reçu des courriers de par le monde, enfin des courriels m'indiquant que Agatha Christie avait séjourné là et là et là, et par des descendants d'une grand-mère, un monsieur syrien qui m'a écrit pour me dire que sa grand-mère avait non pas des photos d'Agatha Christie, ce que j'ai demandé immédiatement, mais en tout cas que sa grand-mère en fait était cuisinière dans l'endroit où Agatha Christie séjournait avec Max Mallowan, et qu'elle s'en souvenait.
Et n'oublions pas le continent africain, je pense particulièrement à l'Afrique du Sud, puisqu'elle est allée au Cap, et c'est ce que vous racontez.
Elle est allée au Cap, tout à fait, à un moment où il y avait pas mal d'émeutes, donc ça a été ce côté-là du séjour a été assez mouvementé. Et puis elle a appris à surfer aussi en Afrique du Sud. Elle est allée dans ce qui s'appelait la Rhodésie à l'époque, à Bulawayo. Elle fait d'ailleurs démarrer un de mes ouvrages préférés qui s'appelle Le Secret de Chimnès à Bulawayo. Et elle est allée aux chutes Victoria, dont elle dit dans son autobiographie que c'est un des plus beaux endroits du monde qu'elle ait vu dans sa vie.
Ça donne envie, Pierre Bayard.
Ça donne envie, oui. Je trouve ça très énigmatique, cet attrait que nous avons pour les lieux. Vous savez, quelquefois, certains pays fonctionnent ainsi. Vous allez en Grèce et on va vous présenter la tombe d'Agamemnon, le palais de Nestor, etc. Et ça ne gêne personne parce qu'il y a une sorte de bascule qui s'est fait où les œuvres littéraires ont basculé dans la réalité. Et ça, je crois que c'est le cas des grands écrivains, d'arriver à créer des personnages ou des lieux qui sont intermédiaires entre la réalité et la fiction. Quand j'étais à Burg Island, ça n'avait pas de sens. C'est évident que c'est pas l'île du Nègre. Et pourtant, pour moi, c'était l'île du Nègre. Et ça, je crois que c'est une des grandes forces de certains univers littéraires, de venir submerger la réalité.
Mais c'est cette transversalité, d'ailleurs, que vous défendez dans toute votre œuvre, Pierre Bayard, qu'il n'y a pas de frontière entre la fiction et la réalité, et que les personnages sont tout aussi vivants et tout aussi importants que les êtres humains.
Oui, c'est ce que je rappelle dans ce livre. D'ailleurs, moi, je me bats pour un statut du personnage littéraire, comme pour les autres minorités. Je pense qu'ils ont des devoirs, mais ils ont aussi des droits, et que ces droits devraient être reconnus.
Aussi criminel soit-il, d'ailleurs.
Ah oui, mais là, on n'a pas apporté de... La critique policière ne porte pas de jugement éthique. Hein. C'est une critique scientifique. Elle essaie d'établir ce qui s'est passé, la vérité.
Et dernière question, Pierre Bayard, un troisième volume alors ? Une troisième contre-enquête concernant Agatha Christie ?
Écoutez, il y a quelques années, je vous aurais dit certainement pas de quatrième livre, certainement pas Agatha Christie. Et puis, vous voyez ce qui est arrivé. Je ne suis pas maître des livres que je fais. J'obéis tout à coup à une nécessité intérieure. Et je crois que c'est ce qu'il faut faire. Sinon, on ne fait pas des bons livres.
Donc peut-être, peut-être pas.
Peut-être oui, oui.
Et vous, Anne Martinetti, quelle est votre prochaine étape dans ce travail autour d'Agatha Christie que vous faites depuis des années ?
Alors, Agatha Christie a appris à lire dans Le Chien des Baskerville, et comme Conan Doyle est une autre de mes fascinations littéraires, je suis en train de travailler sur À la poursuite de Sherlock Holmes.
Alors, rendez-vous pris pour une nouvelle aventure autour d'Agatha Christie avec vous deux. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission, et je rappelle les titres de vos livres respectifs. Anne Martinetti, vous signez À la poursuite d'Agatha Christie aux éditions Hugo Images, et Pierre Bayard, vous publiez La vérité sur les dix petits nègres aux éditions Minuit. Merci.
Littérature sans frontières. Catherine Fruchon-Toussaint, Fanny Renard. Le podcast de Littérature sans frontières à réécouter sans limite sur RFI.fr ou sur l'application RFI Pure Radio.